Mao et Béatrice.
Que le diable vous fasse sécher les entrailles à tous ! Mauvaises gens que vous êtes !
Criait la comtesse Mao.
Comment ? Je fais saisir ces deux femmes, par lesquelles on pouvait tout savoir, et pas plus tôt elles sont prises, voici qu'on les relâche !
La comtesse Mao, en son château de Conflans, sur la Seine, près de Vincennes, venait d'apprendre quelques minutes plus tôt que les deux servantes de la Division arrêtées sur son ordre par le bailli d'Arras avaient été libérées. Sa colère était grande, et les mauvaises gens auxquels ces malédictions s'adressaient n'étaient représentés pour l'heure que par la seule Béatrice d'Hirson, sa demoiselle de Parage, sur laquelle elle déchargeait sa fureur. Le bailli d'Arras était un oncle de Béatrice, un frère cadet de feu l'évêque Thierry.
« Ces mesquines, madame, n'ont été relâchées que sur ordre du roi, présentées par deux sergents d'armes, » répondit calmement Béatrice.
« Allons donc ! Le roi se moque bien des deux servantes qui tiennent cuisine dans un faubourg d'Arras. Elles ont été relâchées sur l'ordre de mon Robert, qui a couru chez le roi pour obtenir leur élargissement. A-t-on seulement pris le nom des sergents ? S'est-on assuré qu'ils étaient bien des officiers royaux ?»
Il se nomme Massio l'Allemand et Jean le Servoisier, madame, répondit Béatrice avec la même calme lenteur.
Deux sergents d'armes de Robert ! Je connais ce Massio l'Allemand. Il est de ceux que mon gueux de neveu emploie à tous ces méchants coups. Et d'abord, comment Robert a-t-il été averti que les servantes de la Division avaient été prises ?
Demanda Mao en jetant sur sa dame de Parage un regard chargé de soupçons.
Monseigneur Robert a gardé beaucoup d'intelligence en Artois. Vous ne l'ignorez pas, madame.
« Je souhaite, dit Mao, qu'il n'en ait pas trouvé parmi les gens qui me touchent de près. Mais c'est déjà me trahir que de mal me servir, et je suis trahi de toutes parts. Ah, depuis la mort de Thierry, on dirait que vous n'avez plus de cœur pour moi, des ingrats. Je vous ai tous couverts de mes bienfaits. Depuis 15 ans, je te traite comme ma propre fille. »
Béatrice d'Hirson abaissa ses longs cils noirs et regarda vaguement le dallage. Son visage ambré, lisse, aux lèvres bien ourlées, ne trahissait aucun sentiment, ni humilité, ni révolte, simplement une certaine fausseté par cet abaissement de cils extraordinairement longs, derrière lesquels s'abritait le regard.
« Ton oncle Denis, dont j'ai fait mon trésorier pour complaire à Thierry, me gruge et me dérobe. Où sont les comptes des cerises de mon verger qu'il a vendues cet été sur le marché de Paris ? Un jour viendra où j'exigerai contrôle de ses registres. Vous avez tout, terre, maison, château, acheté avec les profits que vous faites sur moi. Ton oncle Pierre, un niais, que je nomme bailli, pensant que d'être si sot au moins il me sera fidèle, le voilà qui n'est même plus capable de tenir close les portes de mes prisons. On en sort comme on veut, comme d'une auberge ou d'un Bordeaux.
Mon oncle pouvait-il refuser, madame, devant le cachet du roi ?
Et les 4 jours qu'elles ont passés en geôle, qu'ont-elles dit, ces servantes de mauvaise putain ? Les a-t-on fait parler, ton oncle ? Les a-t-il soumises à la question ?
Mais, madame, dit Béatrice toujours de la même voix lente, il ne le pouvait sans ordre de justice. Voyez ce qui est advenu à votre bailli de Béthune.
D'un geste de sa grande main tavelée, Mao balaya l'argument.
Non ! Vous ne me servez plus avec cœur, dit-elle. Ou plutôt, vous m'avez toujours mal servi.
Mao vieillissait. L'âge marquait son corps de géante. Un rude duvet blanc croissait sur ses joues, qui s'empourprait au moindre mécontentement. La montée du sang lui coupait alors comme une bavette rouge sur la gorge. Au cours de l'année précédente, elle avait connu plusieurs graves altérations de santé. Cette période lui était funeste, de toutes les manières. Depuis son parjure d'Amiens et la constitution de la commission d'enquête, son caractère s'aigrissait jusqu'à devenir odieux. De plus, son esprit se fatiguait. Elle mettait un peu toutes choses sur le même plan. La grêle avait-elle gâté les roses qu'elle faisait cultiver par milliers dans ses jardins, ou bien quelque accident était-il survenu aux machines hydrauliques qui alimentaient les cascades artificielles de son château d'Edin ? Sa colère s'abattait comme tempête sur les jardiniers, sur les ingénieurs, sur les écuyers, sur Béatrice.
« Et ces peintures, faites il n'y a pas 10 ans !»
criait-elle en montrant les fresques de la galerie de Conflans.
« 48 livres parisis !» Je les ai payés à cet imagier que ton oncle Denis avait fait venir de Bruxelles et qui m'avait bien garanti qu'il emploierait les couleurs les plus fines. Pas même 10 ans et regarde donc. L'argent des hommes se ternit déjà et le bas de l'image est tout écaillé. Est-ce là bon travail honnête ? Je te le demande.
Béatrice s'ennuyait. La suite de Mao était nombreuse, mais composée seulement de gens âgés. Mao se tenait à présent assez éloigné de la cour de France, qui était toute soumise à l'influence de Robert. Là-bas, à Paris, à Saint-Germain, autour du roi Trouvé, c'était sans cesse joute, tournoi et fête, pour l'anniversaire de la reine, pour le départ du roi de Bohême, ou même sans raison, simplement pour se donner plaisir. Mao n'y allait guère, ou ne faisait que de brèves apparitions quand son rang de pair de royaume l'y obligeait. Elle n'était plus d'âge à danser carole, ni d'humeur à regarder les autres se divertir, surtout dans une cour où on la traitait si mal. Elle ne prenait même plus d'agrément à séjourner à Paris, en son hôtel de la rue Montconseil. Elle vivait retraite entre les hauts murs de Conflans, ou bien à Hesdin, qu'elle avait dû remettre en état après les dévastations exercées par Robert en 1316. Tyrannique depuis qu'elle n'avait plus d'amant, le dernier avait été l'évêque Thierry d'Hirson, qui se partageait entre elle et la Divion, d'où la haine que Mao vouait à cette femme, et, redoutant d'être saisie de malaise nocturne, elle obligeait Béatrice à dormir au bout de sa chambre, où stagnaient des odeurs accumulées de vieillesse, de pharmacie et de mangeaille. Car Mao dévorait toujours autant, à toute heure saisie des mêmes fringales monstrueuses. Les tentures, les tapis sentaient le civet, la venaison, le brouet à l'ail. De fréquentes indigestions l'obligeaient à appeler mire, physicien, barbier et apothicaire. Les potions et bouillons d'herbe succédaient aux viandes marinées. Ah, où était le bon temps où Béatrice aidait Mao à empoisonner les rois? Béatrice elle-même commençait à ressentir le poids des années. Sa jeunesse s'achevait. 33 ans, c'est l'âge où toutes les femmes, même les plus perverses, contemplent les deux versants de leur vie, songent avec nostalgie aux saisons écoulées et avec inquiétude aux saisons à venir. Béatrice était toujours belle et s'en assurait dans les yeux des hommes, ses miroirs préférés. Mais elle savait aussi qu'elle ne possédait plus absolument ce teint de fruits dorés qui avait fait l'attrait de ses 20 ans. L'œil très sombre, et qui ne laissait presque pas paraître de blanc entre les cils, était moins brillant au réveil. La hanche s'alourdissait un peu. C'était maintenant que les jours ne se devaient point perdre. Mais comment, avec cette Mao qui l'obligeait à coucher dans sa chambre, comment s'échapper pour rejoindre un amant de rencontre, ou pour aller à minuit, en quelque maison secrète, assister à une messe vaine, et trouver dans les pratiques du sabbat les épices du plaisir ?